Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Il est 19h30 ici à Paris. On va parler du Hamas ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Le mouvement islamiste palestinien qui est au pouvoir à Gaza depuis près de 20 ans et qui commence, semble-t-il, à être défié par une population locale de plus en plus meurtrie par la guerre. 18 mois de conflit, plus de 50 000 morts selon les autorités locales et l'armée israélienne qui poursuit son offensive. Ce mercredi, elle a annoncé l'extension de ses opérations militaires à Gaza 15 jours après que la trêve a volé en éclats. Des Gazaouis ont manifesté récemment et parmi eux, plusieurs ont scandé des slogans hostiles au Hamas. Ce sont des positions qui font écho à cet appel qui a été formulé peu de temps avant par le porte-parole du Fatah, appel au Hamas à céder le pouvoir. D'où notre question ce soir, est-ce que le Hamas peut perdre son emprise sur Gaza? Est-ce que le Hamas représente aujourd'hui les Palestiniens de l'enclave? Et peut-on imaginer des alternatives? Quelles alternatives pour les chantiers qui s'imposent, la fin de la guerre, la reconstruction et évidemment la question palestinienne? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir à mes côtés en studio, Jean-Paul Chagnolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient, co-auteur du livre « Atlas des Palestiniens ». Face à vous, Guilhem Deltaï. Bonsoir, Guilhem.
Bonsoir, Romain.
Journaliste au service international de RFI, vous êtes l'auteur du podcast « Palestinien » et vous êtes l'ancien envoyé spécial permanent de RFI à Jérusalem. Et Leïla Sora, notre troisième invitée, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris-Carep, autrice de l'ouvrage Hamas et le monde. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Jean-Paul Chagnolo. Que vous inspire cette manifestation qui s'est tenue il y a 8 jours, plusieurs centaines de Gazaouis, dehors, ça c'est un mot qui est revenu dans la bouche de certains, à l'encontre du Hamas? C'est assez rare pour être souligné. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est un élément tangible?
Je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a évidemment une partie de la population qui, depuis le début, n'a jamais apprécié le Hamas pour de bonnes raisons. Et a fortiori, après cette tragédie terrible où tous les 2 millions, 2 millions d'eux souffrent d'une manière absolument dramatique. Mais je crois qu'on n'en est plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus dans une guerre comme ça a été dans les premières semaines, les premiers mois. On est dans autre chose. Dans autre chose radicalement différent, où le Hamas est un élément parmi d'autres. Mais ce qui est fondamental, ce sont les dernières déclarations des responsables israéliens, et en particulier le ministre de la Défense, qui dit qu'il faut s'emparer de nouvelles terres. Et Netanyahou, il y a quelques semaines, a dit qu'il faut appliquer le plan Trump. Donc nous sommes en ce moment dans une réflexion qui est une action aussi des Israéliens, enfin, en tout cas ce gouvernement-là, qui est en fait un nettoyage ethnique. Il s'agit de se débarrasser de la population de Gaza dans la chassant. Et il y a eu au moins 3 endroits où c'est déjà le cas, dans le nord, au milieu de Gaza, et puis tout récemment, des quartiers assez vastes de la ville de Rafah. Donc on est dans ce processus-là, et j'ajouterais évidemment que ça se fait aussi en ce qu'on appelle la West Bank, c'est-à-dire la Cisjordanie, où il y a 40 000 personnes qui ont été exfiltrées, si je puis dire, expulsées, et donc en fait déportées des camps de Jénine, des camps de réfugiés de Jénine, de Naplouse, et puis d'un troisième dont j'oublie le nom. Enfin bref, il y a eu 40 000 personnes comme ça qui sont aujourd'hui nulle part dans l'errance, et ce qui inquiète beaucoup les autorités jordaniennes, parce que ça signifie que peut-être elles pourraient être forcées de quitter ce territoire. Donc on est dans cette phase-là. Là, c'est ce que veulent le gouvernement israélien, au point d'avoir mis en place une administration de l'immigration volontaire, ce qui est un bel euphémisme pour faire en sorte que les Gazaouis partent. Alors la question, évidemment, c'est est-ce que ça va vraiment se faire? Là, c'est en route, mais où vont-ils aller? On les regroupe manifestement dans certaines zones, puisque d'autres zones vont être complètement vidées de la population, puisqu'elles vont être annexées de facto, en tout cas, par les Israéliens. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et les réactions... alors, aux États-Unis, il n'y a pas de réaction du gouvernement, puisque le gouvernement a annoncé l'idée qu'il y aurait une épuration ethnique, pour prendre des mots tels qu'ils... Enfin, les vrais mots, en disant qu'il faut se débarrasser de la population de Gaza. Mais en Europe, par exemple, on est encore à des réflexions très vagues, mais on ne se rend pas compte de ce processus. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui.
Mais on a bien compris que la balle est dans le camp face à une telle situation de la communauté internationale, mais est-ce que les choses changeraient si ce n'était pas le Hamas qui était au pouvoir à Gaza?
Vous savez, je crois que là aussi, il faut aller bien au-delà de tout ça. C'est-à-dire que Que voulait Netanyahou depuis longtemps ? Ce n'est pas depuis simplement le 7 octobre. Il veut en fait étouffer la question palestinienne et annexer la Cisjordanie. C'est ça son objectif. Et coloniser. Pourquoi est-ce qu'il y a eu les mouvements très importants de normalisation en 2020 ? La normalisation, ça veut dire on fait la paix avec les États arabes et puis on met la question palestinienne sous le tapis. On a tous compris ça. Et le 7 octobre a évidemment changé la donne complètement. Mais on est toujours sur cette ligne-là. Et comme il y a aujourd'hui une administration américaine qui est complètement en faveur de la colonisation, et donc de la liquidation de la question palestinienne, eh bien Netanyahou, pour le moment, car les choses peuvent changer au Proche-Orient, les choses sont toujours extrêmement complexes, eh bien il a une sorte de carte blanche pour faire ce qu'il veut, quoi. C'est ça. Il y a eu 1000 morts depuis le 18 mars, et puis il y a eu des moments, il y a des choses qui... Moi, qui me choque beaucoup et qui ne semble pas choquer nos politiques, par exemple, le fait qu'il y a eu 15 secouristes palestiniens qui ont été tués, ensuite mis dans une fosse commune, comme si voilà, on essayait d'oublier et de camoufler ce crime. Et les Nations Unies s'en sont émues. Mais les Nations Unies, malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas beaucoup de pouvoir parce que le Conseil de sécurité, de toute façon, que peut-il faire ? Rien, puisque les Américains bloqueraient. Donc on en est là. Je crois qu'il faut vraiment penser ce... Nous sommes en face de ça.
Guilhem Delté, comment vous avez suivi ces manifestations il y a 8 jours de Gazaouis, encore une fois, certains hostiles au Hamas? Ça fait écho à, et vous m'en parliez avant l'émission, à ces manifestations déjà anti-Hamas qui ont pu avoir lieu en 2017 et en 2019 dans la bande de Gaza quand vous étiez correspondant de RFI à Jérusalem. Donc ça montre que ce n'est pas la première fois que la population gazaoui se soulève ou en tout cas manifeste une colère à l'encontre du Hamas.
Non, tout à fait. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas leur donner une importance supérieure à celle qu'elle n'a. Ce n'est pas rien, hein, quand même, de manifester contre le Hamas dans la bande de Gaza de manière générale. Moi, j'ai effectivement eu, au cours de mon temps de séjour à Jérusalem, qui a été donc d'un peu plus de 4 ans, il y a eu 2 fois des contestations anti-gouvernementales. C'était sur les conditions de vie, contre les coupures d'électricité, contre la vie chère de manière générale, les conditions de vie qui se dégradaient. Ça a duré 3-4 jours maximum. La répression derrière était assez féroce et le mouvement ne durait pas. Donc c'est vrai que de descendre dans la rue contre le Hamas à Gaza, c'est un geste fort pour les Palestiniens. Ça l'est peut-être encore plus dans un contexte post-7 octobre.
Ce sont les premières depuis 7 octobre manifestations où on sent cette colère des Gazaouis contre, encore une fois, le Hamas, le mouvement qui est au pouvoir à Gaza.
Il y a déjà eu des voix qui se sont exprimées contre le Hamas dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. On en a recueilli un certain nombre, nous, sur l'antenne, mais qui se sont exprimées dans la rue et de manière aussi... Alors, d'une part, aussi vocale et aussi nombreuse. Oui, c'était la première fois qu'il y avait un mouvement de ce type-là. Ça dit quelque chose, incontestablement, tout de même, de l'état d'esprit de la population gazaoui, d'une partie de la population gazaoui. Encore une fois, la contestation du Hamas, Jean-Paul Chagnolot le rappelait, elle n'est pas née d'aujourd'hui, elle date depuis sa prise de pouvoir. Les Gazaouis dans la bande de Gaza sont très divisés, en fait, entre les deux grandes factions, Hamas et Fatah. Ouais. Donc
le Fatah du président
de l'autorité palestinienne,
Mahmoud
Abbas. Et donc, du coup, en fait, c'est sûr qu'il y a toujours eu et qu'il y a aujourd'hui encore un nombre conséquent de Gazaouis qui sont mécontents de la gestion du Hamas. J'ai toutefois sous les yeux un sondage de l'institut, le seul institut de sondage palestinien qui réalise des études assez régulièrement, normalement sur une période de plus ou moins de 3 mois. Là, c'est un petit peu plus, étant donné les conditions, notamment dans la bande de Gaza, qui permettent difficilement de réaliser des sondages, mais le dernier qu'il a publié date de septembre 2024. Le Hamas a dans la bande de Gaza, perdu 13 points, effectivement, en un an, au profit du Fatah, donc le mouvement rival de Mahmoud Abbas, qui, lui, est monté de 12 points. Mais il faut savoir quand même que le Hamas reste 10 points devant le Fatah dans la bande de Gaza en termes de popularité. Donc oui, le Hamas est peut-être en perte de vitesse quelque part. Néanmoins, le discrédit en face est aussi très grand. Et donc du coup, il n'y a pas pour l'instant une alternative qui émerge.
Leïla Sora, alors évidemment, on va évoquer ces échéances et est-ce que des alternatives sont possibles ou pas à Gaza. Mais Leïla Sora, sur quoi, selon vous, ces manifestations peuvent déboucher ? Est-ce qu'elles peuvent gagner en puissance ? Est-ce qu'il faut craindre de la répression du Hamas ?
Écoutez, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il ne faut pas surestimer leur importance, mais il faut tout de même les prendre au sérieux. D'abord, il est clair qu'il y a toujours eu une opposition politique au Hamas qui a existé dans la bande de Gaza. Vous l'avez dit, hein, il y avait ce mouvement important, Bednan Reich, hein, Nous voulons vivre, en 2018, qui s'était mobilisé contre les effets du blocus. Mais quand on se mobilise contre les effets du blocus, on se mobilise à la fois contre Israël, mais dans le même temps contre le Hamas pour sa mauvaise gestion des affaires publiques dans la bande de Gaza. Bon, ça a toujours existé, mais je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux surtout leur timing, en fait, parce qu'elles arrivent dans ce moment précis qui, je crois, est très important, peut-être, de souligner pour mieux les comprendre, hein, les interpréter. Elles arrivent au moment où il y a une rupture du cessez-le-feu, et elles arrivent aussi 2 semaines après la fermeture totale des points de passage et l'arrêt de la distribution de l'aide. Elle commence à Jabalia, dans la zone donc nord de la bande de Gaza, qui est la plus densément peuplée, mais aussi la plus touchée, où les Palestiniens ont parfois subi 3 à 4 déplacements. Donc je crois que c'est une des raisons pour lesquelles c'est particulièrement difficile, en fait, là, pour les Palestiniens, qui ont en fait pu souffler pendant 50 jours, mais la reprise de la guerre les éloigne, en fait, à nouveau et plus que jamais de toute perspective d'arrêt des bombardements, et c'est donc pour eux, en fait, un retour du cauchemar qui reste sans issue, en fait. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre pour penser ces mobilisations, c'est qu'elles sont en fait dans un cadre qui est à la fois le cadre colonial, mais aussi donc le contexte génocidaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, le contexte génocidaire, il rend à la fois possible ces mobilisations, puisque les gens n'en peuvent plus, ils sont épuisés émotionnellement, physiquement, donc, et puis ils ont aussi l'impression d'être la cible réelle des bombardements et la cible première. Et ils pensent donc qu'en manifestant, ils pourraient en quelque sorte se protéger en affichant, en fait, une désolidarisation avec le Hamas. Mais en même temps, ce cadre génocidaire, il limite le développement des mobilisations, parce qu'évidemment, les Palestiniens ont d'abord peur de faire le jeu de l'occupation,
bien sûr,
qui certes cherche à se débarrasser du Hamas, mais dont les intentions, comme ça a été dit, vont beaucoup plus loin. Les Palestiniens le comprennent très bien. Les Palestiniens comprennent très bien le fait qu'Israël utilise, en fait, le Hamas comme prétexte pour supprimer le plus possible de Palestiniens, et savent donc aussi que le départ du Hamas ne sonne pas du tout la fin de la partie pour les Israéliens, puisque chasser le Hamas amènera in fine à chasser tous les Palestiniens. Donc ils ont tous ces projets dont on a parlé, de déportation très concrets, hein, qui ont été formulés publiquement par les responsables israéliens et par l'administration Trump. Ils ont en tête ces projets, et ils savent très bien, finalement, que le départ du Hamas ne changera pas grand-chose à leur sort, en fait.
Jean-Paul Chagnolot, est-ce qu'effectivement, et en écho à ce que dit Leïla Sera, finalement, pour les Palestiniens, se focaliser contre le Hamas, c'est détourner l'attention contre Israël ?
Enfin, écoutez, il faut quand même essayer de saisir la situation telle qu'elle est au quotidien. Elle est... Enfin, il n'y a pas de mots pour décrire les choses quand on regarde dans le détail, parce que de loin, comme ça, c'est une tragédie, c'est des mots creux, mais quand on voit comment les gens sont ciblés, par exemple les 15 secouristes qui ont été assassinés par l'armée israélienne, il n'y a pas d'autre terme qu'assassinés. Moi, je connaissais indirectement une famille de journalistes avec sa femme, ses 3 enfants, qui ont été chez eux. Assassinés. Enfin, il y a eu un bombardement sur leur maison. C'est une des rares maisons qui devait encore rester debout. Les gens vivent sous des tentes pour la plupart. Il y a 80% des bâtiments qui sont détruits.
Ce que vous voulez dire, c'est finalement le mouvement de colère qu'on voit contre le Hamas. C'est d'abord une population qui n'en peut plus.
Mais c'est une population. La société aujourd'hui de Gaza est complètement disloquée. Je prends un exemple concret. Je suis universitaire et j'ai eu l'occasion, maintenant il y a longtemps, parce qu'il n'y avait plus d'accès possible bien avant le 7 octobre pour les étrangers aller à Gaza, mais toutes les universités, il y en a une dizaine, elles ont été bombardées, mais pas simplement bombardées, il y avait des unités spéciales qui venaient pour faire imploser les bâtiments. Donc on a rasé toutes les universités de Gaza. J'en connaissais une ou deux, en particulier celle où on enseignait le français, elles ont été rasées, il n'y a plus rien. Donc il faut essayer de comprendre ça. Et les gens qui ont été déportés, moi je n'aime pas le mot déplacé parce qu'il est trop, trop facile, on déporte les gens du nord vers le sud, et maintenant après ils ont pu remonter vers le nord, et maintenant on leur demande de redescendre vers le sud, c'est-à-dire nulle part. Et ils ont trouvé, en remontant du sud vers le nord, pour ceux qui ont pu rentrer, à un moment donné, ça a été possible, eh bien, ils ont vu que leurs maisons étaient entièrement détruites et ils vivent sous des tentes. Donc, il faut quand même replacer le contexte très concret.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'encore une fois, c'est que la population de Gaza, les Palestiniens de Gaza, n'ont pas de grief contre le Hamas.
Je n'ai pas dit ça. Mais simplement se focaliser. Le Hamas est une organisation totalitaire. Moi, j'ai rencontré ces dirigeants à tel ou tel moment, enfin des militants. Bon, c'est des types qui sont des totalitaires et qui ont imposé un pouvoir sur Gaza, bien entendu. Le drame de cette affaire, c'est qu'il n'y a pas d'alternative politique aujourd'hui. Et quand il y a eu des élections qui ont été organisées il n'y a pas longtemps, c'était il y a 4 ans, en 2021, Mahmoud Abbas, finalement, les a annulées. Et s'il y avait eu des élections, ça aurait régénéré un peu, disons, la classe politique. Le Hamas aurait sans doute fait un score de l'ordre de 30%, 35%. Mais bon, on aurait été dans une logique différente. Alors que là, on est dans des espèces de blocages complets.
Et alors pourquoi Mahmoud Abbas les a annulés?
Tout simplement parce qu'il allait les perdre.
D'accord.
Il allait les perdre, y compris pour lui-même, puisqu'il y avait aussi une présidentielle et il allait les perdre. Donc plutôt
ça montre le peu d'alternatives. Du Fatah aujourd'hui.
Il n'y en a pas. Et lorsqu'on regarde les sondages globaux, pas simplement un seul, mais les Palestiniens voudraient d'autres organisations politiques. Il y a une grande méfiance à l'égard du Hamas, bien sûr, mais à l'égard du Fatah aussi. Et il ne faut pas se raconter d'histoire. Le Hamas, il reste assez populaire à Gaza. C'est difficile de savoir. On a des sondages, mais qu'est-ce qu'ils valent? Mais en Cisjordanie, là, ça vaut le coup parce que c'est très concret. Et là, il a encore une assez forte audience. Pourquoi? Parce qu'il combat l'armée israélienne. Il faut bien voir ça. Donc, que le Hamas, et comme le disait Léla Sera tout à l'heure, c'est vrai que même si des dirigeants, mais qu'est-ce que ça veut dire les dirigeants? Jusqu'à quel niveau on parle des dirigeants? Et est-ce que c'est uniquement les dirigeants militaires et les dirigeants politiques? Ça fait beaucoup, beaucoup de monde tout ça. Hein, s'ils partaient, mais ça ne change rien, parce qu'il s'agit vraiment d'écraser la question palestinienne. Et il faut bien comprendre que nous sommes, je le répète, il faut peser les mots avec une espèce de sérénité, mais ferme. C'est du nettoyage ethnique qui est en question aujourd'hui. L'armée israélienne est en train, et elle le dit, c'est pas...
J'ai réorienté les questions, parce qu'encore une fois, notre question et notre débat aujourd'hui porte moins sur l'offensive israélienne que sur la place du Hamas aujourd'hui à Gaza.
Oui, mais la place du Hamas ne peut pas être appréhendée hors d'un contexte. La place du Hamas avant le 7 octobre est une chose, la place du Hamas, disons, à l'automne 2023 est une autre chose. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte Alors, ça me surprend beaucoup qu'on ne voit pas ce qui se passe. C'est-à-dire que la place du Hamas dans un contexte où des centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants sont complètement bousculés dans des conditions terribles pour à chaque fois changer d'endroit avec l'idée qu'on voudrait bien qu'ils quittent Gaza. C'est ça la réalité. Alors quel est le poids d'une organisation politique telle quelle qu'elle soit dans une telle situation?
Et le Hamas ne peut rien faire.
Et mais le Hamas,
qui que ce soit à la place du Hamas, ne pourrait rien faire.
Mais, je veux dire, c'est une situation absolument, absolument terrible. Il faudrait comparer avec d'autres situations qu'il y a eu au Proche-Orient. Malheureusement, il y en a eu d'autres de déportations de populations comme ça. Et puis, n'oublions pas une chose aussi. Depuis le début du mois de mars, c'est fondamental. Il n'y a plus d'aide humanitaire qui passe, plus rien. Il n'y a même plus d'électricité, ça a été coupé. Qu'est-ce que ça veut dire, couper l'électricité? Ça veut dire aussi qu'on n'a plus d'eau parce qu'il y a des usines qui permettent de désaliniser l'eau de mer et par conséquent, on ne peut plus avoir d'eau. Donc on est dans ces conditions-là. On vit sur des réserves aujourd'hui et elles vont s'épuiser si ce n'est pas déjà fait dans beaucoup d'endroits. Donc c'est ça la situation concrète. Elle est épouvantable, quoi. Les gens ne peuvent plus vivre. Et je répète, prenons aussi l'université, j'évoquais ça tout à l'heure, mais prenons l'école. Ça fait maintenant 18 mois qu'il n'y a plus de possibilité d'école. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'école. Elles ont été détruites par l'armée israélienne. Donc vous voyez, c'est ça. Alors à partir de là, on peut prendre la question du Hamas, ok? Mais vous voyez, c'est un élément dans un contexte qui bouscule tout, quoi.
Puis le game de pays. Et puis le Hamas, en fait, il faut voir exactement de quoi on parle. Il y a effectivement une contestation contre sa gestion de la bande de Gaza depuis sa prise de pouvoir. Mais le Hamas, c'est un mouvement totalitaire, vous le disiez. C'est un mouvement, donc, en fait, ce n'est pas qu'un mouvement politique, c'est un mouvement armé également. Se débarrasser du Hamas, ce n'est pas juste faire tomber un gouvernement. Ça serait arriver à se débarrasser de son aile armée aussi. Et ça, pour l'instant, on est à un an et demi de guerre dans la bande de Gaza, pour l'instant.
Juste une remarque, que croyez-vous? Admettons que le Hamas disparaisse.
Et le Hamas, s'il disparaît,
ça veut dire qu'il céderait le pouvoir, alors?
Non, mais
qu'il accepterait finalement l'appel du porte-parole du Fatah, ça c'est...
Mais non, oui, qu'il parte, que le Hamas n'existe plus. Prenons une hypothèse comme ça.
Non, mais c'est imaginable ou...
Non, mais attendez, la suite de mon raisonnement, c'est de dire, quel est le fondement de l'organisation du Hamas? c'est la volonté de combattre par les armes Israël, qui est une puissance occupante. Bon, on fait disparaître le Hamas, il y aura toujours des courants importants de la population qui continueront à vouloir prendre les armes pour combattre l'autorité, enfin pour combattre la puissance occupante. Est-ce qu'ils auront une idéologie islamiste ou pas? C'est presque plus le problème. Y a plein de gens en Cisjordanie qui ne sont pas du tout Hamas, mais qui ont envie de prendre les armes contre la puissance occupante. Enfin, c'est ça la racine de tout ça.
Non, c'était le dernier point que je voulais dire, effectivement. C'est que même si on se débarrasse du Hamas en tant que structure, à la fois politique et militaire, l'idée de la résistance à Israël demeure, croit certainement les combats s'éternisent, et que donc du coup, on ne se débarrassera pas du Hamas, ou en tout cas de ceux qui représentent, simplement en faisant tomber...
La seule solution, c'est une solution politique, où on crée une entité palestinienne, voire un État palestinien, et à ce moment-là, oui, on verra les choses autrement, mais sinon, non, il n'y aura pas de... ça continuera.
On va l'évoquer. Est-ce que le Hamas peut perdre son emprise sur Gaza? C'est la question qu'on pose ce soir après cette manifestation il y a 8 jours de Gazaoui. Parmi les manifestants, il y a eu des slogans hostiles au Hamas qui ont été scandés. Et peu de temps avant, eh bien, le porte-parole du Fatah, le parti du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, eh bien, a appelé le Hamas à céder le pouvoir à Gaza. Nos trois invités sont Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, co-auteur du livre Atlas des Palestiniens, Guilhem Deltey, qui est journaliste au service international de RFI, auteur du podcast palestinien et ancien envoyé spécial permanent de Radio France Internationale à Jérusalem. Et Leïla Sera, je voudrais vous donner la parole à présent. Leïla Sera, chercheuse au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris Carep, autrice du Hamas et Le Monde. Que vous inspire cette prise de position du porte-parole du Fatah qui donc a demandé au Hamas de céder le pouvoir et qui prévient que si le Hamas reste au pouvoir, et ça prolonge un petit peu ce que Jean-Paul Chagnolo commence à évoquer, eh bien la bataille qui vient mènera à la fin de l'existence des Palestiniens, déclare-t-il.
C'est-à-dire que demander au Hamas de céder le pouvoir, ça dépend ce qu'il entend par céder le pouvoir, parce que ça c'est aussi une revendication du Hamas. Ce qui est particulier dans ces mobilisations, c'est qu'elles ont exprimé des slogans qui étaient en partie des revendications propres au Hamas. Le premier slogan, c'est « cesser la guerre », donc demander un cessez-le-feu. C'est ce que le Hamas demande depuis 15 mois. Et le deuxième, c'est demander au Hamas de quitter le gouvernement. Or, c'est quelque chose que le Hamas a proposé depuis longtemps. Le Hamas ne souhaite plus, en fait, gérer les services et le gouvernement, donc la fonction de gérer les affaires courantes dans la bande de Gaza, de ce gouvernement, le Hamas n'en veut plus depuis très longtemps. Après, je pense que le représentant du Fatah, quand il dit ça, il nous dit autre chose, en fait. Il dit quitter le pouvoir, définitivement. Qu'est-ce que ça veut dire, quitter le pouvoir? Ça veut dire aussi, en partie, évidemment, rendre les armes, ce que le Hamas ne fera jamais. Et il ne s'agit pas, d'ailleurs, uniquement des armes du Hamas. Il s'agit aussi des autres organisations de la résistance palestinienne qui sont le Fatah, les comités de résistance populaire, le djihad islamique. En fait, il y a beaucoup de factions palestiniennes armées qui participent au combat. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Si on demande déjà au Hamas de baisser les armes, qu'est-ce qu'on fait des autres armes, déjà? Donc, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Et le Hamas a distingué donc, la gestion des services et le pouvoir, plus généralement, qui, en grande partie, est un pouvoir qui reflète, en fait, les capacités armées et de la résistance de l'armement. Hein. On ne sait pas grand-chose, en fait, sur les capacités des brigades Al-Qassam aujourd'hui. C'est très compliqué, en fait, de savoir où ils en sont, à quel point ils sont affaiblis. Et c'est une question récurrente qui revient souvent et qui fait, en fait, qu'il y a des sources contradictoires, surtout des sources israéliennes, d'ailleurs, parce que le Hamas ne parle pas, n'expose jamais ses propres capacités, n'en parle pas. On a donc uniquement des sources américaines et israéliennes qui disent des choses assez contradictoires, en fait. Donc, si on se base sur l'administration américaine, déjà à l'époque de Biden nous disait « bon, le Hamas se restructure tous les jours ». dans, au nord, au sud, etc. Il s'est régénéré, donc il est toujours là. Après, j'accorderai pas une très grande fiabilité à ces sources, hein, parce que je crois que même en Israël, ça reflète quand même pas mal un jeu de politique intérieure. C'est-à-dire que Netanyahou nous dit hier que 95% des capacités balistiques du Hamas ont été détruites, mais dans le même temps, on a Eisenkot, qui est donc l'ancien chef d'état-major, qui fait désormais partie de l'opposition, qui nous dit le Hamas compte maintenant 25 000 terroristes, etc. Donc en fait,
oui, elle, se régénérer.
Ces sources, elles disent tout et leur contraire. On ne peut pas du tout s'y fier. On ne peut pas du tout s'y fier. Mais ce qui est clair, elles nous disent une chose, elles nous disent en fait, dans cette communication, parce qu'en fait, c'est de la communication politique, hein, c'est à, tous ces chiffres sont avant tout destinés à l'extérieur. Ça, c'est destiné à quoi? C'est d'abord donner une caution au nettoyage ethnique des Palestiniens, parce que quand on nous dit le Hamas s'est régénéré, ben, il est toujours là, donc ça justifie les frappes, il faut continuer de le combattre. Mais ça nous dit aussi, bah, finalement, même si on arrive à l'affaiblir, notre ennemi est toujours là et on ne sera jamais en paix. D'une certaine manière, c'est comme, vous savez, dans l'interview fleuve de Witkoff, il y a quelques jours, qui a donné une interview de 92 minutes, il nous dit aussi que le Hamas...
L'envoyé spécial de Donald Trump au Proche-Orient.
Tout à fait. Nous dire aussi que le Hamas, c'est une idée, c'est une manière de dire, bah, de toute façon, on continuera de combattre, même s'ils ne sont plus là, d'un point de vue organisationnel, politique, la branche armée, la branche politique, de toute façon, comme ça reste une idée, bah, on est toujours là pour les combattre, puisque une idée, elle ne peut pas être combattue. Donc finalement, c'est une manière de justifier en fait ce nettoyage ethnique sans arrêt, qui ne s'arrêtera pas.
Et ça renvoie à ce que nous disait Jean-Paul Chagnolot. On approche de la fin déjà de notre émission. Jean-Paul Chagnolot, Leïla Sera a cité beaucoup d'entités palestinienne. Est-ce que on peut imaginer une réconciliation nationale de ces entités pour une représentation forte des Palestiniens demain, à Gaza et ailleurs?
Vous savez, ça fait... Je crois qu'il y a eu un moment clé dans l'histoire politique des Palestiniens, c'est la mort d'Arafat. C'était en novembre 2004. Ça fait plus de 20 ans. Ouais. Et lui seul avait réussi à fédérer d'une certaine manière ou à faire en sorte de faire vivre ensemble d'une manière ou d'une autre les différentes factions avec beaucoup de difficultés. Et finalement, à la fin, il a échoué. Le Hamas n'étant pas membre de l'OLP, il y a toujours eu d'énormes difficultés. Mais aujourd'hui, depuis 20 ans, il n'y a plus de leadership palestinien au sens d'un gouvernement qui serait un gouvernement d'union nationale. Sauf que il faut rappeler qu'en 2006, il y a eu des élections. Les élections ont donné une victoire au Hamas, en siège, sinon en suffrage. Et là, on a eu un gouvernement d'union nationale qui était dirigé par quelqu'un du Hamas, puisqu'il était majoritaire. C'était Hanié, c'est-à-dire celui qui a été assassiné par Israël il y a quelque temps. Et il était le premier ministre. Ça a duré quelques mois parce que la communauté internationale ne voulait pas d'un gouvernement avec le Hamas, alors même qu'ils avaient voulu les élections. Donc, à part ce moment très fugitif, il n'y a pas de leadership palestinien aujourd'hui. Et c'est un grand drame. Depuis 20 ans, on a deux factions qui pensent simplement à contrôler le pouvoir, un pouvoir qui est évanescent parce que finalement, ils sont sous occupation et dans une tragédie absolue. Donc, il n'y a plus de leader. Et c'est un des grands problèmes de la Palestine aujourd'hui, enfin des Palestiniens aujourd'hui.
Et ça montre que finalement, si on veut répondre à notre question, le Hamas, oui, peut perdre son emprise sur Gaza. Pas sûr que ça change les choses. Merci beaucoup à vous trois. Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Guylaine Deltaï, merci. Journaliste au service international de RFI, ancien envoyé spécial permanent à Jérusalem et votre podcast palestinien. Leïla Sera, merci. Chercheuse au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris Carep, autrice du Hamas et Le Monde. Merci à Florence Ponce qui était à la préparation de ce débat, Hélène Avril à sa réalisation, et rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour.
RFI.
Allez, dans un peu plus d'une minute, ce sera le grand journal du soir avec Christophe Paget. Le dossier nous emmènera aux États-Unis en ce jour de libération, selon Donald Trump, qui devrait être marqué par la généralisation de la guerre commerciale. Et puis juste après, 30 minutes plus tard, ce sera la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à l'une ce soir, Donald Trump, justement, il nomme un conseiller Afrique.
Oui, il s'agit de Massad Boulos, un homme d'affaires libano-américain qui était déjà conseiller sur le Moyen-Orient et les pays arabes. Ses fonctions sont élargies.
En RDC, peine de mort, commuée en prison à vie pour trois ressortissants américains.
Et oui, ils avaient été condamnés à la peine capitale pour leur participation à un coup d'État manqué en mai 2024 à Kinshasa. Les trois Américains font partie d'un groupe de plusieurs dizaines d'hommes armés qui avaient attaqué le 19 mai précisément 2024 le domicile de l'actuel président de l'Assemblée nationale. nationale.
Et puis en Côte d'Ivoire, le cacao n'a jamais été aussi cher.
Eh oui, une augmentation du prix de l'or brun de plus de 20% par rapport au prix borchant de la récolte principale qui s'est achevée fin mars, annonce faite aujourd'hui à Abidjan par le ministre ivoirien de l'Agriculture.
Eh bien, merci Zéphirin Quadio, un beau programme. On vous retrouve dans 30 minutes sur RFI. Bougez pas, c'est le grand journal du soir.